L'Église, une esquisse de son histoire pendant 20 siècles. Les premiers siècles. Première partie. Les temps apostoliques. Premier siècle. Second voyage missionnaire de Paul, l'Évangile porté en Europe. Après avoir séjourné quelque temps à Antioche, Paul, constamment occupé du Seigneur et de son œuvre, dit à Barnabas, « Retournons maintenant visiter les frères par toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. » Toujours ce fidèle serviteur de Jésus eut à cœur le bien des assemblées. Il ne se contentait pas d'avoir annoncé l'Évangile et amené des âmes à Christ, mais son ardent désir et l'objet de ses prières était que les saints fussent instruits et fortifiés, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur. Barnabas était disposé à se rendre à l'invitation de Paul, mais il voulait que son neveu Jean, surnommé Marc, les accompagnât. Nous nous rappelons que Marc était parti avec les deux apôtres lors de leur premier voyage, mais que, découragé dès le début, il était retourné à Jérusalem. Il avait mis la main à la charrue et avait regardé en arrière, et Paul pensait qu'il n'était pas propre à affronter de nouveau des difficultés devant lesquelles il avait reculé une première fois. Il y eut donc un dissentiment entre les deux apôtres, et même de l'irritation, ce qui n'aurait pas dû être, car l'irritation dans le cœur est un fruit de la chair et non de l'esprit. Le résultat fut qu'ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et partit pour l'île de Chypre, sa patrie. Barnabas, sans doute, continua à être employé dans l'œuvre du Seigneur. Marc aussi fut formé par la grâce pour le service, comme Paul nous le fait comprendre dans une de ses épîtres, de Timothée 4, verset 11. Mais l'Esprit Saint ne nous parle plus d'eux dans l'histoire qu'il nous trace de l'établissement de l'Église.
De Timothée 4, 11, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service.
Paul, abandonné par son ancien compagnon, choisit pour aller avec lui Silas, dont il avait apprécié le dévouement pour le Seigneur, et qui dès lors ne le quitta plus. Ils partirent, recommandés comme la première fois à la grâce de Dieu par les frères. Cela ne nous est pas dit au sujet de Barnabas. Et nous pouvons en conclure que l'assemblée d'Antioche approuvait Paul dans sa décision à l'égard de Marc. Au lieu de suivre le même chemin que dans son premier voyage avec Barnabas, et pour ne pas aller où celui-ci travaillait déjà, Paul se rendit par terre aux dernières villes qu'il avait évangélisées, c'est-à-dire à Derbe et à Lystre. Pour cela, il eut à traverser une partie de la Syrie et de la Cilicie. Partout il rencontrait des assemblées que la grâce de Dieu avait formées. Combien le cœur de l'apôtre devait être réjoui. Il n'avait pas à prêcher devant des juifs ou des païens aveuglés, mais à fortifier par ses exhortations et ses enseignements des âmes qui connaissaient Jésus. Il pouvait déployer devant elles toutes les richesses de l'amour de Christ, le chef de l'assemblée, afin de les fonder et de les enraciner dans cet amour. Arrivé à Derbe et à Lystre, il s'adjoignit un autre compagnon de travail, Timothée, dont nous avons déjà parlé. Il avait, sans doute, été converti lors du premier passage de Paul, qu'il appelle son véritable enfant dans la foi et son enfant bien-aimé. 1 Timothée 1, verset 2, de Timothée 1, verset 2. Depuis, ce jeune chrétien avait marché fidèlement. Les frères de Lystre et d'Iconium lui rendaient un bon témoignage. Rien n'est beau comme de voir de jeunes hommes, des jeunes filles, au milieu d'un monde rempli de convoitises et de péchés, être dévoués au Seigneur et avoir un bon témoignage. Puisse-t-il y avoir beaucoup de jeunes Timothées? Par la bouche d'un prophète, Timothée avait été désigné de Dieu pour l'œuvre. Le témoignage de tous l'avait reconnu, et les anciens l'avaient approuvé par l'imposition des mains. Puis Paul lui avait conféré, par l'imposition de ses mains, le don de grâce qui distinguait Timothée pour l'œuvre qu'il devait accomplir. 1 Timothée 4, verset 14.
Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains du corps des anciens. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains.
Mais Timothée était fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Un tel mariage n'était pas conforme à la loi juive. Pour les Juifs, ça aurait été un scandale que Paul menât Timothée avec lui pour annoncer l'Évangile. À cause donc des Juifs et dans un esprit de condescendance et de grâce, Paul assujettit Timothée à la circoncision. Paul ne regardait pas cela comme une condition de salut pour Timothée, ainsi que le pensaient ceux qui avaient voulu obliger les chrétiens à se soumettre à la loi juive, mais il ne voulait pas qu'il y eût un prétexte pour les Juifs de rejeter sa prédication. Paul, avec ses deux compagnons, continua son voyage. Comme il passait dans les villes où il y avait des assemblées chrétiennes, il remettait à celles-ci des ordonnances établies par les apôtres et les anciens de Jérusalem, afin qu'elles fussent gardées, et qu'ainsi le lien entre toutes les assemblées fût affirmé et maintenu. En même temps, ces ordonnances étaient une barrière opposée aux chrétiens d'entre les Juifs, qui auraient voulu assujettir les gentils à la loi de Moïse. Les assemblées que visitaient les envoyés de Christ étaient ainsi affermis dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. L'Église, l'Assemblée, qui est la maison de Dieu sur la terre, s'édifiait par les travaux des ouvriers du Seigneur et l'action du Saint-Esprit. Mais Dieu allait diriger son serviteur dans un autre champ. Paul avait passé par la Phrygie et la grande province de Galatie, annonçant l'Évangile. L'Esprit Saint avait agi avec puissance parmi les Galates. Un grand nombre avait été converti et plusieurs assemblées s'étaient formées. Les chrétiens de Galatie avaient témoigné une grande affection à l'apôtre, qui s'était aussi beaucoup attaché à eux. Mais des docteurs juifs se glissèrent plus tard parmi eux et, malgré les ordonnances des apôtres, réussirent à leur persuader qu'ils devaient s'astreindre à l'observation de la loi de Moïse. En même temps, ils cherchaient à mettre en doute l'apostolat de Paul. Celui-ci dut leur écrire une lettre très sévère, parce que vouloir joindre la loi à l'Évangile, c'est renverser celui-ci. Paul et ses compagnons, partis de la Galatie, voulaient annoncer la parole dans cette partie de l'Asie mineure, appelée plus spécialement l'Asie, mais l'Esprit-Saint qui les dirigeait les en empêcha. Ils désirèrent alors aller plus au nord en Bithynie, mais leur saint directeur, l'Esprit de Jésus, ne le leur permit pas non plus. Qu'ils étaient heureux de marcher ainsi sous la direction de Dieu. Mais c'est ce qui arrive toujours lorsqu'on s'attend à lui. Ils se dirigèrent donc vers la Troade, contrée située au bord de cette partie de la mer Méditerranée, appelée aujourd'hui l'archipel, et en face de la Macédoine, province au nord de la Grèce, célèbre dans l'histoire ancienne et qui appartint longtemps à l'Empire turc. Une note, on sait qu'elle fait maintenant partie de la Grèce actuelle. Là, Paul, toujours occupé de l'œuvre du Seigneur, annonça l'Évangile, et nous verrons plus tard qu'une assemblée s'y était formée, dans laquelle Paul se trouva une autre fois. Mais là aussi, les serviteurs du Seigneur apprirent pourquoi Dieu les avait dirigés de ce côté. Nous ne connaissons pas toujours d'abord les desseins de Dieu à notre égard, et pourquoi il nous conduit dans une toute autre direction que celle que nous pensions devoir suivre. Et pour le cœur qui lui est soumis, tout s'éclaircit. Une nuit, Paul eut une vision, sans nul doute envoyée de Dieu. Il vit un homme macédonien qu'il reconnut pour tel à son costume et à son langage. Cet homme, se tenant devant l'apôtre, lui dit « Passe en Macédoine et aide-nous ». Paul, rempli des pensées de Dieu, et sachant qu'il avait pour mission d'évangéliser les nations, comprit immédiatement avec ses compagnons que le Seigneur les appelait à porter le nom de Jésus dans ces nouvelles contrées et que l'assemblée devait s'étendre aussi là et encore plus loin. Ils quittèrent donc la Troade, passèrent la nuit dans l'île de Samothrace, et étant partis le lendemain, ils se dirigèrent vers la ville maritime de Néapolis, où ils débarquèrent. Cette ville, qui se nomme maintenant Cavala, a un port important, mais les messagers du Seigneur ne s'y arrêtèrent pas. Ils se dirigèrent vers la ville de Philippe, où Dieu avait une œuvre merveilleuse à accomplir. Nous allons en parler, mais nous avons à remarquer d'abord un fait intéressant. C'est que, dans la Troade, un nouveau et fidèle compagnon s'était joint à Paul. C'est Luc, que Paul appelle dans une de ses épîtres le médecin bien-aimé, Colossiens 4, verset 14, qui écrivit l'évangile qui porte son nom et le merveilleux récit des actes qui nous fait connaître l'établissement de l'Église chrétienne sur la terre.
Colossiens 4, verset 14, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue.
Luc demeura le dévoué compagnon d'œuvre de Paul à travers les travaux, les peines et les dangers de celui-ci. Et la dernière fois qu'il ait fait mention de lui, c'est quand Paul est en prison à Rome, abandonné de tous, et sur le point de marcher au supplice. Alors le bienheureux apôtre écrit, Luc seul est avec moi, 2 Timothée 4, verset 11. Heureuse place pour Luc, témoignage honorable devant le Seigneur, transmise à travers les siècles, et que Dieu n'oubliera pas. Travaux de Paul à Philippe, histoire de Lydie. L'apôtre et ses compagnons étaient donc en Europe et allaient y commencer l'œuvre du Seigneur. Combien ce fait doit avoir d'intérêt pour nous. C'est dans cette contrée privilégiée que nous habitons que l'Église devait prendre son plus grand développement. C'est aux extrémités de cette Europe que l'Évangile devait briller et brille de sa plus vive lumière. Nous pouvons nous rappeler à ce sujet l'ancienne bénédiction prophétique du patriarche Noé, que Dieu élargisse Japhet et qu'il demeure dans les tentes de Sem, Genèse 9, verset 27. C'est de la postérité de Sem, habitante de l'Orient, que sortit Israël, le peuple élu, dont l'Éternel était le Dieu, et c'est dans ce peuple que naquit le Sauveur du monde. Mais la race de Japhet, de laquelle nous sommes, devait se répandre vers l'Occident, peupler l'Europe et remplir la terre de ses nombreuses colonies, demeurer dans les tentes de Sem. En même temps, la connaissance du Dieu de Sem et du Sauveur promis allait aussi éclairer ces énergiques et actifs enfants de Japhet. Et c'est à ce commencement de bénédiction pour eux que nous a amené notre récit. Quelle grâce pour nous de vivre dans ces temps et ces pays où la parole de Dieu est répandue et où l'Évangile est annoncé, sachant profiter de ce privilège dont Dieu nous demandera compte. Paul, sans s'arrêter à Néapolis, se rendit à Philippe, ville importante, peuplée en grande partie de colons romains. Vous chercheriez en vain maintenant son ancienne splendeur. Il n'en reste que des ruines près d'un pauvre village nommé Féliba. Mais les monuments de la grâce de Dieu, les âmes qui, par la parole du Seigneur, furent amenées à lui, demeureront éternellement dans la gloire. Telle est la différence entre les œuvres de l'homme et celles de Dieu. Les unes périssent, les autres subsistent à toujours. Suivant son habitude, l'apôtre chercha d'abord les Juifs qui habitaient à Philippe. Ils y étaient peu nombreux, semble-t-il, car il n'y avait point de synagogue dans la ville. On se réunissait hors de la porte, près du fleuve Strymon. Dans ce lieu, choisi sans doute pour pouvoir y accomplir facilement les ablutions prescrites, les Juifs se rassemblaient pour la prière. C'est là que Paul et ses compagnons vinrent le jour du sabbat se joindre à la petite congrégation qui, au milieu des païens, adorait le vrai Dieu sans connaître encore toutes les richesses de sa grâce, mais qui allait les entendre annoncer. Il semble que ce jour-là il n'y avait point d'hommes juifs dans la réunion, au moins le récit de Luc ne mentionne que des femmes qui étaient assemblées et auxquelles les serviteurs de Dieu s'adressèrent. Parmi elles se trouvait une femme nommée Lydie. Elle était originaire de Thyatire, ville de l'Asie mineure, où se trouva plus tard une assemblée chrétienne à laquelle, dans l'Apocalypse, le Seigneur envoya un message par son serviteur Jean. Apocalypse 2, verset 18.
Et à l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant.
Lydie était marchande de pourpre, étoffe précieuse et très chère, de couleur violette ou rouge, que portaient seulement les empereurs, les rois et les très riches particuliers. On en revêtait aussi les statues des dieux. La couleur pourpre se tirait d'une sorte d'escargot que l'on trouve sur les bords de la Méditerranée, et comme chaque animal n'en donne que quelques gouttes, on comprend pourquoi les étoffes ainsi teintes revenaient fort cher. Lydie avait sans doute acquis dans son commerce une certaine aisance, mais, ce qui était plus précieux, elle avait la crainte de Dieu dans son cœur et le désir de le connaître. Or l'Écriture dit que « la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse » Psaume 111, verset 10. Et Lydie devait bientôt apprendre à connaître celui qui est la sagesse de Dieu, Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, 1 Corinthiens 1, verset 24 et 30. Lydie n'était pas juive de naissance, mais elle avait appris à connaître le vrai Dieu qu'elle servait, et elle aimait à se réunir avec les Juifs pour le prier. C'est toujours ce qui prouve un besoin de l'âme, d'aimer à se trouver avec ceux qui adorent Dieu, et Dieu y répond par sa bénédiction. Lydie éprouva bientôt cette bénédiction que Dieu accorde à ceux qui le recherchent. Elle écoutait ce que disaient les envoyés du Seigneur. Quelle perte pour l'âme quand les paroles de Dieu viennent frapper les oreilles sans que le cœur y prenne part, sans que l'on écoute. Combien d'avertissements et d'exhortations à écouter ne trouvons-nous pas dans l'Écriture? Avant Lydie, nous voyons une autre femme pieuse, Marie, au pied de Jésus, écoutant sa parole, et Jésus déclare qu'elle a choisi la bonne part. Et le Sauveur, dans un autre endroit, dit « Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Luc 11, verset 28. Puissions-nous être de ce nombre. Telle était Lydie. Elle ne se bornait pas à prêter une oreille distraite à ce qui se disait. Elle appliquait son intelligence à bien saisir les paroles des messagers de Dieu, et bientôt elle fut un de ces bienheureux dont le Seigneur parle en Luc 11, verset 28. Mais tous les efforts de Lydie en écoutant aurait été inutile si Dieu n'avait agi dans son cœur. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut que Dieu lui-même nous les découvre, et c'est ce qu'il fait en appliquant sa parole à notre âme par son Saint-Esprit, de sorte que nous voyons ce que nous sommes, de pauvres pécheurs perdus, et ce que Dieu a fait pour nous dans sa grâce afin de nous sauver. Ce sont là les choses précieuses que Paul annonçait. Dieu ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle y fût attentive, et elle reçut dans ce cœur, jusqu'alors ignorant, les bonnes nouvelles du salut et de l'amour merveilleux de Christ et de Dieu. Lydie avait cru au Seigneur, elle fut introduite dans l'assemblée chrétienne par le baptême, et avec elle toute sa maison. Tel fut le commencement de l'Église de Philippe, la première en Europe, une simple femme et sa famille. Dieu se glorifie ainsi toujours dans sa faiblesse. Ce qu'il opère semble chétif aux yeux des hommes, mais c'est un commencement de grandes choses. Ainsi que le dit le Seigneur Jésus, le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde, la plus petite de toutes les semences. Mais, après qu'il est semé, il monte et devient plus grand que toutes les herbes. Marc 4, verset 31-32. De nos jours aussi, l'Évangile reçu dans un seul cœur devient souvent le commencement d'une grande bénédiction, et « qui a méprisé le jour des petites choses ?» dit la parole. Puisse chacun de nous être ainsi un instrument béni dans la main du Seigneur. « Celui qui croit en moi, a-t-il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Jean 7, verset 38. La parole de Dieu reçue dans le cœur porte toujours des fruits dans la vie. Et ces fruits sont d'abord l'amour, se montrant premièrement envers les chers serviteurs de Dieu qui se dévouent pour l'œuvre de leur maître. Lydie ne pouvait supporter la pensée que les apôtres et leurs compagnons fussent obligés de recourir à une hôtellerie ou fussent logés chez ceux qui n'avaient pas cru. Elle était de la famille de Dieu comme eux. Sa maison devenait la leur, et elle les contrainte à y entrer et à y demeurer, comme preuve qu'ils l'estimaient fidèle au Seigneur. L'amour qu'elle avait pour lui dans son cœur avait son expression dans son amour pour ses envoyés. Si nous aimons les serviteurs de Dieu, et en général les enfants de Dieu, c'est la preuve que nous aimons Dieu et que nous avons la vie divine, ainsi que le dit l'apôtre Jean. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 3, verset 14 et 4, verset 7 et 8. Nous nous sommes un peu étendus sur l'histoire de Lydie parce que nous avons en elle le modèle d'une vraie conversion, caractérisée par ces trois choses. Elle écoutait, Dieu lui ouvrit le cœur, et, ayant reçu et cru sa parole, la vie de Dieu en elle se manifesta par des œuvres d'amour. Puisse-t-il en être ainsi de chacun de nous? Travaux de Paul à Philippe, conversion du geôlier. Nous avons vu le commencement paisible et heureux de l'assemblée de Philippe. Les apôtres continuèrent à se rendre au lieu où l'on se réunissait afin d'y poursuivre l'œuvre de Dieu, et, sans doute, bien d'autres personnes, comme Lydie, furent amenées au Seigneur. L'épître de Paul aux Philippiens en nomme plusieurs. Mais l'ennemi ne peut voir des âmes sauvées sans chercher à s'opposer à la grâce du Seigneur. C'est ce qu'il fit bientôt à Philippe. Il se trouvait dans cette ville une pauvre fille esclave qui avait un esprit de Python. On disait cela des personnes qui prétendaient avoir le don de deviner ou prédire l'avenir, et ils étaient nombreux dans ce temps-là, comme, hélas, ils le sont de nos jours, quoique portant d'autres noms. Mais ce sont de misérables instruments de Satan, de même que ceux qui les écoutent sont des dupes. Le chrétien ne doit rien avoir à faire avec de telles pratiques. La servante dont nous parlons était réellement possédée d'un mauvais esprit, et ses maîtres se servaient de ses prétendues divinations pour se procurer un grand gain de la part de ceux qui venaient la consulter. Un jour que les serviteurs de Dieu se rendaient au lieu de la prière, cette pauvre fille les rencontra. Aussitôt l'esprit qui était en elle, reconnaissant dans les apôtres la puissance divine, fut obligé de le confesser par sa bouche. Elle se mit à les suivre en criant, « Ces hommes sont les esclaves du Dieu Très-Haut qui vous annoncent la voie du salut. » Les démons, quand ils se trouvaient en présence de Jésus sur la terre, s'écriaient aussi, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais Jésus ne voulait pas de leur témoignage et leur fermait la bouche en les chassant du corps des possédés. Paul ne pouvait pas davantage accepter pour son ministère le témoignage d'un mauvais esprit. C'est pourquoi, l'ayant supporté durant plusieurs jours, affligé dans son cœur, il commanda à l'esprit, non point en son nom, mais au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette fille. À l'instant même, l'esprit sortit, et la pauvre servante fut délivrée. Telle est la puissance du nom de Jésus. Pour les maîtres de l'esclave, tout espoir de gain était perdu. C'était une cruelle déception pour leur avarice. Satan, qui avait cherché à se faire l'auxiliaire des apôtres et qui voyait sa ruse déjouée, se servit des mauvais sentiments des maîtres de l'esclave pour les exciter contre Paul et Silas. Irrité de la perte d'argent qu'ils faisaient et voulant se venger, ils traînèrent les deux serviteurs de Dieu devant les magistrats qui siégeaient sur la place publique. Ils ne pouvaient les accuser d'avoir fait du bien à leur esclave. Ils eurent alors recours à la calomnie et au mensonge. « Ces hommes-ci, qui sont juifs, dirent-ils, mettent tout en trouble dans notre ville et annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de pratiquer à nous qui sommes romains. C'était une grave accusation, car les lois romaines punissaient sévèrement ceux qui cherchaient à introduire des religions nouvelles, et en disant que Paul et Silas étaient juifs, ils excitaient la haine que les païens avaient pour ce peuple méprisé. » Aussi toute la foule qui entendait ces accusations se souleva-t-elle contre les apôtres, et les magistrats, voulant à tout prix la calmer, au lieu d'examiner la cause avec justice, commandèrent que Paul et Silas fussent battus de verges et jetés en prison. Ils s'inquiétaient peu des deux Juifs étrangers. Ils firent arracher de dessus les apôtres leurs vêtements, et leur firent appliquer sur la chair nue un grand nombre de coups, dont chacun laissait une trace sanglante. Puis, meurtris comme ils l'étaient, avec leurs habits déchirés, ils furent jetés en prison, et ordre fut donné au geôlier de les garder sûrement. Dans la prison, un nouveau supplice les attendait. Le geôlier ayant reçu un tel ordre ne pouvait qu'obéir à ses supérieurs. Il enferma donc les apôtres dans la prison intérieure, sans doute un obscur cachot, et fixa sûrement leurs pieds dans le bois. C'était une sorte de poutre double avec des ouvertures pour y passer chaque jambe, de manière à interdire tout mouvement. Quelle position pour les serviteurs de Dieu! Mais ce fut pour eux l'occasion de montrer comment triomphe la foi. Satan et les hommes avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir contre les serviteurs de Dieu. Mais ils ne peuvent toucher qu'au corps, et le Seigneur a dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. » Luc 12, verset 4. Paul et Silas le savaient. Dans ce sombre cachot où ils gisaient, une lumière céleste et divine remplissait leur cœur. Ils pensaient à celui qui les avait aimés et qui avait souffert bien plus qu'eux de la part des hommes, à celui qui, sur la croix, avait subi, pour les sauver, le jugement et la mort, et ils s'estimaient heureux de souffrir quelque chose pour lui. Ils élevaient leurs regards en haut, et comme Étienne, ils voyaient par la foi, dans la gloire, Jésus, le Fils de l'homme qui les aimait et les prendrait un jour avec lui. Aussi, bien loin d'être accablés, de se répandre en plainte, ils étaient remplis de l'amour et de la gloire de leur Sauveur, et goûtaient une paix profonde et un bonheur ineffable. Ce qui occupait leur âme se manifestait au dehors, vers minuit, au sein des ténèbres extérieures, dans ce lieu où habituellement ne se faisaient entendre que des gémissements et des blasphèmes, ces deux bienheureux chantaient les louanges de Dieu. Quelle victoire sur l'adversaire qui avait cru leur fermer la bouche. Leurs prières et leurs louanges devenaient un témoignage et une prédication. Les prisonniers les écoutaient. Quelle devait être leur surprise! Ainsi, Dieu était glorifié dans une sombre prison. La réponse à leurs prières et à leur confiance ne se fit pas attendre. Dieu, dans sa puissance, vint montrer ce qu'étaient pour son cœur ces deux pauvres prisonniers juifs. Soudain, il se fit un grand tremblement de terre, les fondements de la prison, où l'on croyait les prisonniers bien en sûreté, furent ébranlés. Ces portes, solides et bien fermées avec leurs barres et leurs serrures, s'ouvrent. Les liens, les chaînes, les entraves qui serraient les membres des prisonniers sont brisées. Toute la puissance de l'homme est comme anéantie devant Dieu. Mais cette puissance divine allait aussi arracher à Satan un captif d'un autre genre. Le geôlier, éveillé en sursaut, accourut pour voir si tout était en ordre. Quelle dut être sa stupeur en voyant les portes ouvertes. Il ne douta pas un moment que tous les prisonniers ne se fussent enfuis, et, comme il répondait d'eux sur sa vie, dans son désespoir, il avait déjà tiré son épée pour se tuer. Mais Dieu n'avait pas ouvert les portes de la prison pour que les lois fussent violées. En déployant sa puissance, il avait d'autres desseins, des desseins de grâce. Lui-même avait retenu les prisonniers qui, voyant que Paul et Silas ne s'échappaient pas, les avaient sans doute imités. Au moment où le pauvre geôlier allait mettre fin à sa vie et se précipiter ainsi au devant du jugement de Dieu, la voix de la grâce qui veut sauver le pécheur et non le laisser périr se fit entendre. « Ne te fais point de mal, lui cria Paul, nous sommes tous ici. » Le geôlier, frappé de ces paroles si inattendues, demande de la lumière, s'élance dans le cachot où il avait jeté les serviteurs de Dieu, et tombe à leurs pieds, tout tremblant d'émotion et de crainte. Combien tout est changé! Dans quelle nouvelle lumière il les voit! Ce cachot n'est pas la place de ceux pour qui Dieu intervient ainsi. Il les mène dehors, mais il se voit aussi lui-même dans la lumière de Dieu. Il se sent coupable et perdu, et, de son cœur angoissé, s'échappe ce cri « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» La réponse ne se fait pas attendre. Cette même parole de grâce qui l'a empêché de se faire du mal va maintenant lui faire du bien et porter la paix dans son cœur. Les apôtres de l'Évangile lui répondent aussitôt « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Pour le geôlier, comme pour tous, c'est l'unique voie de salut. Le nom de Jésus est le seul qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. La lumière et la grâce divine étaient ainsi entrées dans cette triste demeure pour en faire une maison de joie. L'effort de Satan avait tourné contre lui. Il avait fait mettre les apôtres en prison pour les réduire au silence, mais là, des âmes avaient été sauvées. Quelle merveille de la puissance et de l'amour de Dieu! Les serviteurs du Seigneur, après leur première parole de paix, continuèrent à annoncer la bonne nouvelle du salut au geôlier et à tous ceux qui étaient dans sa maison, que ces événements avaient sans doute attirés. Le geôlier avait cru, et sa foi se montra aussitôt par l'amour, comme cela avait été le cas pour Lydie. Il les prit en cette même heure de la nuit et lava leurs plaies. Après ce témoignage, lui et les siens furent baptisés. Un autre fruit de la foi se manifesta en lui. Pensant aux besoins de ceux qui maintenant étaient pour lui des frères bien-aimés, il les fit monter chez lui et leur dressa une table, son cœur et ceux des siens étant remplis de joie d'avoir été amenés à la connaissance de l'amour merveilleux de Dieu pour leur salut. Quelle heureuse nuit pour eux tous! Ils étaient passés des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Le jour étant venu, les magistrats pensèrent que le tumulte étant apaisé, ils pouvaient renvoyer ces hommes contre lesquels il n'y avait pas eu de jugement rendu. Ils envoyèrent donc au geôlier l'ordre de les relâcher, et le geôlier le transmit à Paul. Mais Paul, qui, pour lui-même, avait souffert l'injustice, ne pouvait pas, pour la gloire de l'Évangile, accepter d'être renvoyé en cachette comme un homme sans aveu. Il refusa donc de sortir de prison et demanda que les magistrats eux-mêmes vinssent les mettre en liberté, eux qui étaient romains, et que l'on n'aurait pas dû frapper et mettre en prison sans forme de jugement. Les magistrats furent effrayés en apprenant qu'ils avaient mis les mains sur des citoyens romains. Ils s'empressèrent d'apporter leurs excuses à Paul et à Silas et les firent sortir de prison, leur demandant en même temps, comme une faveur, de quitter leur ville. Les apôtres agirent en toute liberté. Ils rentrèrent chez Lydie où ils logeaient, y rassemblèrent les frères et les ayant exhortés et encouragés, partirent de Philippe pour continuer leur œuvre. Ainsi fut établie la première assemblée chrétienne en Europe, composée de quelques juifs, de prosélytes et de païens. Elle était dévouée au Seigneur et attachée à ses serviteurs qui avaient souffert pour lui annoncer l'Évangile. Nous voyons aussi par la lettre qu'il leur écrivit plus tard, étant en prison, combien Paul aimait ses chers Philippiens. Travaux de Paul à Thessalonique et à Bérée. Paul et Silas, en quittant Philippe, y avaient laissé Timothée et Luc, sans doute pour instruire et affermir les saints. Pour eux, et ils se dirigèrent vers Thessalonique, autre ville importante de la Macédoine, et qu'il est encore de nos jours sous le nom de Salonique. Là se trouvait la synagogue des Juifs. C'était comme un centre où les Juifs venaient de différentes villes voisines et se rassemblaient les jours de sabbat. Malgré tout ce qu'il avait souffert à Philippe, Paul, pour le service de son cher maître, était rempli de courage et prêt à annoncer l'Évangile coûte que coûte. Aussi entra-t-il avec hardiesse dans la synagogue, selon l'habitude qu'il avait de porter d'abord la bonne nouvelle à ceux de sa nation. Il trouva là, sans doute, un nombreux auditoire, puisqu'on s'y rassemblait de différents lieux, auditoire composé de Juifs et de Grecs prosélytes, c'est-à-dire qui avaient appris à connaître le vrai Dieu, et suivait le service divin qui se célébrait dans la synagogue. Ce service consistait en prières et en lecture de portions des Écritures auxquelles s'ajoutaient quelques exhortations que pouvaient adresser à l'auditoire ceux qui s'y sentaient appelés ou que les chefs de synagogue invitaient à le faire. Voyez Luc 4, versets 16 à 27.
Et il vint à Nazareth où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue au jour du sabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. » Et ayant ployé le livre et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Et il se mit à leur dire, « Aujourd'hui cette écriture est accomplie, vous l'entendant. » Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph ? » Et il leur dit, « Assurément, vous me direz cette parabole, médecin, guéris-toi toi-même, fais ici aussi dans ton pays toutes les choses que nous avons ouï dire qui ont été faites à Capernaum. » Et il dit, « En vérité, je vous dis qu'aucun prophète n'est reçu dans son pays. Et en vérité, je vous dis qu'il y avait plusieurs veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, de sorte qu'il y eut une grande famine par tout le pays. Et Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, sinon à Sarepta de la Sidonie, vers une femme veuve. Et il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net, sinon Naaman le Syrien. »
Acte 13, versets 14 et 15.
Et eux, étant partis de Perge, traversèrent le pays, et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Et après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. »
L'apôtre Paul profita de cette liberté de parole pour exposer la vérité de Dieu touchant Jésus. C'était ce qui remplissait son cœur. Pendant 3 sabbats, l'apôtre discourut, c'est-à-dire s'entretint avec les Juifs d'après les Écritures, celles de l'Ancien Testament bien entendu, que ceux-ci respectaient comme étant la parole de Dieu. Et que leur exposait-il en s'appuyant sur ces saints écrits? 2 choses. La première, c'est qu'il fallait que le Christ, c'est-à-dire le Messie que les Juifs attendaient, souffrît et ressuscitât d'entre les morts. Il le fallait, puisque les Écritures l'annonçaient, Ésaïe 53, psaume 16, et parce que c'était l'œuvre absolument nécessaire à notre salut. Mais les Juifs, remplis de leur pensée terrestre, ne voulaient voir dans le Messie qu'un roi glorieux qui les affranchirait du joug de leurs ennemis et repoussait la pensée que ce Messie dut d'abord souffrir, mourir et ressusciter avant d'entrer dans sa gloire. La seconde chose que Paul exposait, c'est que Jésus de Nazareth, celui dont, sans doute, le nom était parvenu aux oreilles de ces Juifs, était bien le Christ, le Messie annoncé par les prophètes. L'apôtre pouvait montrer que, dans sa naissance, sa vie et sa mort, les Écritures étaient accomplies. Mais quant à sa résurrection dont elle parlait, n'y avait-il pas des témoins nombreux? Lui-même, Paul, n'avait-il pas vu et entendu Christ dans la gloire divine, de sorte que, de blasphémateur et persécuteur, il était devenu croyant et apôtre. Mais l'opprobre de la croix était aussi une chose que les Juifs ne pouvaient souffrir. Christ crucifié leur était un scandale. Cependant, la puissance de la grâce opéra dans les âmes de plusieurs personnes. L'Esprit Saint appliqua la parole à leur conscience et à leur cœur. Elles reçurent avec joie ce que Paul disait, comme étant non la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Parmi ceux qui crurent et se joignirent à Paul et à Silas, se trouvaient des Juifs, une grande multitude de Grecs prosélytes, des femmes de premier rang en assez grand nombre, et aussi des païens tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux Jésus, son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Car ce retour de Jésus, pour prendre avec lui ses bien-aimés, était aussi une vérité que Paul annonçait aux nouveaux convertis. L'apôtre exerça avec bonheur son ministère parmi ces chrétiens jeunes dans la foi, mais remplis d'amour et d'espérance. Il les soignait comme une nourrice ses propres enfants, travaillant jour et nuit de ses propres mains pour n'être à charge à aucun d'eux, leur donnant ainsi, avec ses instructions, l'exemple d'une vie de dévouement, afin qu'ils apprissent à marcher d'une manière digne de Dieu. 1 Thessaloniciens 1, verset 2.
Nous rendons toujours grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières.
Mais tandis que l'œuvre de Dieu se poursuivait ainsi, l'ennemi veillait, et bientôt la persécution éclata. Elle vint encore des Juifs incrédules. Pleins de jalousie de voir l'assemblée de Dieu se former au nom de Jésus, ils ameutèrent les méchants hommes de la populace et, avec leur aide, assaillirent la maison où demeuraient Paul et Silas pour les y chercher et les amener dehors à cette foule excitée, dans le but de leur faire un mauvais parti. Et n'ayant pas trouvé les apôtres, ils saisirent Jason, le maître de la maison, qui était un des nouveaux chrétiens, et le traînèrent avec quelques frères devant les magistrats. De quoi pouvaient-ils les accuser? D'avoir reçu ces gens qui, disaient-ils, avaient bouleversé toute la terre. Était-ce vrai? Non, certes. C'était la paix qu'annonçaient les apôtres, paix avec Dieu et entre les hommes. Ceux qui bouleversaient étaient Satan et ses instruments, les hommes qui ne voulaient pas recevoir Jésus, de peur d'être troublés dans leurs mauvaises œuvres. Mais une autre accusation était portée contre les chrétiens. C'était de désobéir aux lois de César, l'empereur romain, et de dire qu'il y avait un autre roi, Jésus. Était-ce vrai? Non. Les apôtres exhortaient à être soumis aux autorités comme établis de Dieu, et Jésus avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jean 18, verset 36 et Romains 13, verset 1.
Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité, si ce n'est de par Dieu, et celles qui existent sont ordonnées de Dieu.
Les magistrats et la foule qui entendaient ces paroles d'accusation furent troublés. Mais comme Jason et les autres frères étaient des personnes établies dans la ville et bien connues, les magistrats se bornèrent à exiger d'eux une caution comme garantie que, de leur part, l'ordre ne serait pas troublé, et ils les renvoyèrent. Aussitôt après, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour les mettre à l'abri de la haine des Juifs, qui eût pu s'exercer plus facilement envers des étrangers accusés d'être des séditieux. Mais au milieu des persécutions, l'œuvre de Dieu s'étendait, et l'assemblée du Seigneur s'accroissait. Une église était formée à Thessalonique, et un peu plus tard, Paul, lui écrivant, s'adressait à elle de la manière suivante. « Paul et Sylvain, ou Silas, et Timothée, à l'assemblée des Thessaloniciens en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, grâce et paix à vous. » Nous voyons dans cette épître que la persécution ne s'était pas arrêtée après le départ des apôtres. « Vous aussi, dit Paul, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes choses que les assemblées de la Judée ont souffertes de la part des Juifs. Mais au milieu de leur tribulation, ils avaient tenu ferme, et le cœur de Paul en avait été rempli de consolation. Quelle est notre espérance, ou notre joie, ou la couronne dont nous nous glorifions, dit-il. N'est-ce pas bien vous devant notre Seigneur Jésus à sa venue? 1 Thessaloniciens 1, verset 1 et 2, verset 14 et 19. Ce qui réjouit et soutient le cœur d'un serviteur de Dieu, c'est d'abord la conversion des âmes, mais ensuite c'est de voir ces âmes demeurer fermes et croître dans la connaissance et l'amour du Seigneur en marchant d'une manière digne de lui. Les frères de Thessalonique envoyèrent Paul et Silas à Bérée, autre ville de la Macédoine au sud-ouest de Thessalonique. Des chrétiens de cette dernière ville accompagnèrent Paul et restèrent avec lui. Deux d'entre eux sont nommés plus loin, Ce sont Second et Aristarque. Acte 20, verset 4. Timothée aussi rejoignit Paul à Bérée.
Et Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, l'accompagna jusqu'en Asie, et les Thessaloniciens, Aristarque et Second et Gaius et Timothée de Derbe.
Quelle consolation pour l'apôtre de se trouver avec ses fidèles compagnons de travaux et de prières. Aussi le voyons-nous plein de courage entrer avec Silas à Bérée, dans la synagogue des Juifs, pour y annoncer l'Évangile. Le Seigneur accorda à ses serviteurs la parole de Dieu. Les Juifs n'y montrèrent pas d'opposition. Ils firent voir des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, en n'écoutant ni leurs préjugés ni leurs traditions. Paul leur annonçait les mêmes vérités qu'à Thessalonique et les appuyait sur les Écritures. Les Béréens, pleins de bonne volonté, se mirent à examiner chaque jour les Écritures pour voir si l'enseignement de Paul s'accordait avec elles. C'est l'exemple que nous avons à suivre, et c'est à quoi le Seigneur invitait les Juifs quand il leur disait « Sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5, verset 39. Quel que soit l'enseignement que nous entendons, ou l'homme qui l'apporte, nous avons à en référer à la seule autorité infaillible, la parole de Dieu. Le résultat des prédications et des instructions des apôtres ne tarda pas à se manifester dans ces cœurs bien préparés. La semence avait été jetée dans une bonne terre. La parole avait été entendue et comprise, et elle avait porté du fruit. Plusieurs d'entre les Juifs béréens crurent, ainsi que des femmes grecques de qualité, et des hommes en assez grand nombre. Ces femmes et ces hommes étaient des prosélytes, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu précédemment, des personnes nées dans le paganisme, mais amenées à la connaissance du vrai Dieu. D'après cet exemple et d'autres, nous voyons que c'était chez elles que l'Évangile trouvait le plus d'accès. Une assemblée se trouva ainsi établie à Bérée, mais les serviteurs de Dieu ne purent pas y continuer bien longtemps leurs paisibles travaux. Les Juifs incrédules de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu à Bérée. Aussitôt ils y vinrent, poussés par leur haine contre Paul et contre le nom de Jésus, et soulevèrent là aussi les foules, sans doute par les mêmes moyens que ceux qu'ils avaient employés à Thessalonique. C'était surtout à Paul qu'ils en voulaient. Ils auraient souhaité faire disparaître du monde ce fidèle témoin du Seigneur, dont la conversion était une preuve si frappante de la puissance de Christ. C'est pourquoi les frères de Bérée renvoyèrent aussitôt Paul, en prenant des précautions pour dérouter les Juifs qui auraient voulu le poursuivre. Ceux qui conduisaient l'apôtre le menèrent jusqu'à Athènes, à une grande distance de la Macédoine. Silas et Timothée restèrent à Bérée pour continuer à instruire les chrétiens, mais Paul leur fit dire de venir bientôt le rejoindre. Ainsi le cher serviteur de Dieu, persécuté dans une ville, allait dans une autre, mais c'était pour porter partout la bonne odeur de Christ. Paul à Athènes. Paul avait été conduit à Athènes où il attendait ses deux compagnons de voyage et de travaux, Silas et Timothée. Athènes, qui maintenant est la capitale de la Grèce, avait été une des cités les plus célèbres de l'Antiquité. Au temps de Paul, elle était soumise aux Romains et bien déchue de son ancienne splendeur, mais elle était encore le rendez-vous d'une quantité d'étrangers et d'une foule de philosophes de différentes écoles. Ce qui distinguait ses habitants, c'était, avec une extrême politesse de langage, une grande frivolité qui les faisait courir après tous les diseurs de nouvelles et un esprit très superstitieux. La ville était remplie de temples et d'autels dressés aux faux dieux de toute espèce. Nous pouvons nous imaginer les sentiments qui devaient agiter le cœur du fidèle serviteur de Dieu et de Christ en voyant tant d'âmes plongées dans les vanités du monde, dans les ténèbres de l'idolâtrie, égarées par les vains raisonnements des hommes, et ainsi tenues loin de Dieu. Son esprit était ému en lui-même, et comment aurait-il pu se taire, lui qui connaissait la vérité, la seule vérité qui sauve? Il s'adressa donc d'abord dans la synagogue aux Juifs et aux prosélytes, qui avait déjà quelque connaissance du vrai Dieu, puis, tous les jours, sur la place publique, il parlait à ceux qui s'y rencontraient. Et quel était le sujet de ses entretiens? Ce qui remplissait son cœur, savoir Jésus, la personne adorable du Sauveur, et la victoire qu'il a remportée sur la mort, afin de nous introduire dans la vie affranchie du péché. Parmi ceux qui l'entendaient se trouvaient des philosophes, prétendus sages de ce monde, poursuivant la connaissance de la vérité sans jamais l'atteindre, parce que la vérité est en Dieu, et que le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 21.
Car puisque dans la sagesse de Dieu le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient.
D'entre ces philosophes, les uns étaient des épicuriens et les autres des stoïciens. Les premiers étaient des matérialistes qui cherchaient le bonheur dans les jouissances des sens et se livraient au plaisir. Les stoïciens prétendaient arriver à la vertu par leur propre force et affectaient de mépriser la douleur. C'étaient des orgueilleux. Tous d'ailleurs étaient dans l'ignorance la plus entière de Dieu. Les paroles de Paul leur paraissaient très étranges. Il disait « Ils semblent annoncer des dieux étrangers, prenant pour des noms de divinité Jésus et la résurrection. Les uns, plus frivoles, se moquaient de l'apôtre et le traitaient de bavard. Les autres voulurent au moins s'enquérir, peut-être par simple curiosité, de ces choses nouvelles que Paul disait. Ils le menèrent donc à l'aréopage. C'était une place élevée, où siégeait un tribunal autrefois célèbre, mais où se rassemblaient aussi les savants et les hommes d'État pour s'entretenir entre eux. On était là loin du bruit de la place publique, et Paul pouvait plus facilement y exposer devant tous la vérité que Dieu lui avait confiée. C'est ainsi que le Seigneur conduisait son cher serviteur pour qu'il lui rendît témoignage devant les grands et les petits, les savants et les ignorants. Les philosophes demandèrent donc à Paul, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles ?» Alors Paul, se tenant debout au milieu d'eux, leur annonça la vérité touchant Dieu et le jugement, Jésus et la résurrection, selon que ces sages, si renommés et pourtant si ignorants, pouvaient la comprendre. L'apôtre, en parcourant la ville, avait vu, au milieu de la multitude des objets de culte, un autel sur lequel était l'inscription « Au Dieu inconnu ». On raconte que, dans les temps passés, une maladie contagieuse ravageait la ville, et que les Athéniens, ne sachant de quelle divinité il fallait détourner la colère, avaient érigé des autels au Dieu inconnu. D'ailleurs, au fond de la conscience de tout homme, et dans toutes les religions du paganisme, il existe le sentiment d'un Dieu suprême, mais inconnu. Paul, conduit par la sagesse de l'Esprit de Dieu, s'empare de cette circonstance qu'il rappelle à ses auditeurs et leur dit « Celui donc que vous honorez sans le connaître, c'est celui que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains, et il n'est pas servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. » Ainsi, ces philosophes si orgueilleux de leur science ont besoin que Paul leur apprenne ce qu'un enfant peut savoir dès son tout premier âge, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu créateur de toutes choses et qui ne les laisse pas abandonner à elles-mêmes après les avoir créées. Il est le Seigneur, celui qui domine au ciel et sur la terre. De plus, il remplit tout de sa présence. Ces païens cultivés ignoraient ces grandes vérités, mais nous, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Hébreux 11, verset 3. Et nous savons que Dieu est partout. Mais les philosophes pensaient que la divinité reste éloignée des hommes et ne s'occupe pas d'eux. Ils pensaient aussi que chaque nation avait une origine à part. Les Grecs et les Romains estimaient les autres comme des barbares. C'est pourquoi Paul ajoute « Il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps ordonnés et les bornes de leur habitation. Nous n'ignorons pas que l'Africain, comme le Chinois ou l'Hindou, de même que nous descendons tous du même premier homme, Adam. Nous savons bien aussi que c'est Dieu qui conduit toutes choses dans son gouvernement souverain, puisque pas même un petit oiseau ne tombe en terre sans sa volonté. Matthieu 10, verset 29.
Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, et pas un seul d'entre eux ne tombe en terre sans votre Père.
Mais les païens ignoraient tout cela. Paul leur montre ensuite qu'ils auraient pu connaître Dieu s'ils l'avaient cherché, lui qui avait donné les preuves de son existence et de sa puissance créatrice. Il n'est pas loin de chacun de nous, dit-il, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Quelques-uns de leurs poètes avaient entrevu cette autre grande vérité, que l'homme n'est pas simplement un animal, comme de nos jours tant d'esprits faux voudraient le faire croire. Ces poètes anciens, plus sages que nos discoureurs modernes, avaient dit, « Car aussi nous sommes sa race, celle de Dieu qui, après avoir formé le corps de l'homme, a soufflé dans ses narines une respiration de vie. » L'apôtre confirme cette parole pour montrer la vanité des idoles. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre, à une œuvre sculptée de l'art et de l'imagination de l'homme. Mais Paul avait autre chose à annoncer aux philosophes et aux païens auxquels il parlait. On peut reconnaître l'existence d'un Dieu suprême, gouvernant toutes choses, la supériorité de la race humaine et la vanité des idoles. Mais il faut de plus que la conscience soit atteinte, que Dieu soit reconnu comme celui qui juge les secrets des cœurs par Jésus, l'homme ressuscité, et que la grâce soit proclamée. L'apôtre continue donc ainsi. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, philosophes ou illettrés, riches ou pauvres, en tout lieu, à Athènes ou à Rome ou chez les barbares, ils se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. C'est ainsi que Dieu fit briller sa lumière aux yeux de ce peuple savant d'Athènes, la lumière de sa connaissance qui place la conscience devant lui et qui invite les hommes à se repentir, à se tourner vers lui, en vue du jugement qu'il doit exécuter par Jésus, l'homme qu'il a ressuscité d'entre les morts. La résurrection de Christ était une preuve de sa victoire sur le mal et de son titre à être le juge du monde. L'apôtre aurait peut-être continué à parler de Jésus en le présentant, non seulement comme juge, mais aussi comme sauveur. Mais la foule savante avait assez de ses paroles. Tant qu'il avait parlé d'un Dieu créateur, on avait écouté. Mais en entendant parler de la résurrection des morts, cette chose incroyable pour l'esprit naturel, mais que Dieu révèle, les uns, dans leur frivolité incrédule, se moquent de la doctrine qui annonce une autre vie et gêne le cœur attaché au plaisir. Les autres remettent à plus tard le moment de s'en occuper, comme si plus tard nous appartenait. Paul sortit du milieu de ces sages du monde qui restèrent dans les ténèbres. N'y eut-il donc aucun fruit de sa prédication ? Oui, Dieu bénit là aussi sa parole pour quelques âmes. Plusieurs personnes crurent ce que Paul prêchait et se joignirent à lui. Sans doute les instruisit-il ensuite plus au long dans les saintes vérités de la foi. Parmi eux se trouvait Denis, membre du tribunal de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris. Nous ne savons rien de plus sur ces deux personnes, mais le Seigneur les connaissait et a voulu que leur nom nous fusse conservé. Il est précieux pour les vrais croyants de savoir que s'ils sont inconnus du monde, le Seigneur les connaît par leur nom. Paul à Corinthe. Plusieurs personnes avaient été converties au Seigneur et une assemblée avait certainement été formée à Athènes. De cette ville, Paul se rendit à Corinthe. C'était aussi une des principales cités grecques, célèbre par son commerce, ses richesses et sa culture intellectuelle, mais surtout par le luxe de ses habitants, leur amour des plaisirs et la dépravation de leurs mœurs entretenues par le culte de divinités impures. C'était vraiment une forteresse de Satan qui y tenait les âmes enchaînées par les convoitises charnelles et par les faux raisonnements de la sagesse humaine. Paul se trouvait donc là dans un milieu qui avait bien besoin de l'Évangile, lequel est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. En même temps, la tâche placée devant lui était particulièrement difficile. Mais le Seigneur est suffisant pour tout, et Paul en fit l'expérience. Suivant sa coutume, l'apôtre rechercha d'abord ses compatriotes juifs. Parmi eux, il en trouva un nommé Aquilas. Comme nous le trouvons plusieurs fois mentionné ainsi que Priscilla, sa femme, dans les actes et dans les épîtres de Paul, nous dirons d'eux quelques mots. Tandis que les hommes conservent dans leurs histoires les noms de leurs héros et de leurs conquérants fameux, Dieu enregistre dans son livre les noms de ses serviteurs, bien humbles et chétifs devant le monde, mais grands et précieux à ses yeux. Tels étaient Aquilas et Priscilla. Aquilas était originaire de la province du Pont en Asie mineure, mais ainsi que beaucoup d'autres juifs, il habitait Rome, la grande ville impériale. Il était fabricant de tentes, objets nécessaires pour les armées en campagne et les voyageurs de ces temps. Des troubles ayant été suscités à Rome par les juifs, l'empereur Claude expulsa de la ville tous les gens de cette nation, et c'est ainsi qu'Aquilas et Priscilla furent conduits à Corinthe, où ils continuèrent à exercer leur profession. Nous avons déjà vu que Paul avait appris ce même métier. C'est en l'exerçant qu'il pourvoyait à ses besoins, et même à ceux de ses compagnons, afin de n'être à charge à personne. Ayant fait la connaissance d'Aquilas et de Priscilla, il vint demeurer dans leur maison et travaillait avec eux. La parole de Dieu ne nous dit pas quand et par quels moyens Aquilas et Priscilla furent convertis. Peut-être fût-ce par le ministère de Paul à Corinthe. En tout cas, nous ne pouvons douter que, dans la société de l'apôtre, il n'ait fait des progrès dans la grâce et la connaissance du Seigneur, de manière à pouvoir instruire les autres, comme nous le verrons, et à être des compagnons d'œuvre de Paul. Ils devinrent ses amis dévoués jusqu'à la mort. L'apôtre, à la fin de son épître aux Romains, parle d'eux en ces termes, « Saluez Prisca ou Priscilla et Aquilas, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus, qui, pour ma vie, ont exposé leur propre cou, auquel je ne rends pas grâce moi seul, mais aussi toutes les assemblées des nations, et saluez l'assemblée qui se réunit dans leur maison. » Nous voyons par là qu'ils étaient retournés à Rome peu d'années après en être sortis. En effet, après que Paul fut demeuré avec eux à Corinthe un an et demi, ils partirent ensemble et l'accompagnèrent à Éphèse, où ils restèrent plus de 2 ans, et d'où, sans doute, ils se rendirent à Rome. Ce fut peut-être à Éphèse où Paul courut un grand danger, dans le grand trouble survenu à l'occasion des disciples du Seigneur, et dont nous parlerons, qu'Aquilas et Priscilla exposèrent leur vie pour lui. Remarquons encore un autre trait. Nous trouvons, soit dans l'épître aux Romains, soit dans celle aux Corinthiens, que l'assemblée se réunissait à Rome et à Éphèse, dans la maison d'Aquilas et de Priscilla. Romains 16, verset 5.
Et l'assemblée qui se réunit dans leur maison.
1 Corinthiens 16, 19.
Les assemblées de l'Asie vous saluent, Aquilas et Priscilla, avec l'assemblée qui se réunit dans leur maison, vous saluent affectueusement.
On n'avait pas alors pour se rassembler des édifices plus ou moins vastes, plus ou moins splendidement ornés, non, c'était dans des chambres hautes, dans l'humble demeure d'un obscur artisan chrétien comme Aquilas, ou chez un Philémon probablement plus riche, que les saints des premiers temps se réunissaient pour s'édifier et rendre culte à Dieu. Acte 20, verset 8.
Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés.
Philémon 2.
Et à la sœur Aphie et à Archip, notre compagnon d'armes, et à l'assemblée qui se réunit dans ta maison.
Colossiens 4, 15.
Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas, et l'assemblée qui se réunit dans sa maison.
Quel privilège et quelle bénédiction pour ceux qui ouvraient ainsi leur maison à l'assemblée, peut-être au péril de leur vie. Plus tard, ces deux fidèles serviteurs revinrent à Éphèse, comme nous le voyons dans la seconde épître de Paul à son cher fils Timothée. De Timothée 4, 19.
Salut Prisca et Aquila et la maison d'Onésiphore.
Voilà tout ce que nous savons de Priscilla et d'Aquila. Ils continuèrent leur humble course, travaillant pour le Seigneur. Comment se termina leur vie ici-bas, nous l'ignorons. Mais ils sont auprès de Jésus avec leur ami Paul, attendant, comme lui, la venue du Seigneur et la couronne de justice, réservée à tous ceux qui aiment son apparition. Quelle heureuse vie et quelle heureuse fin que celle des serviteurs dévoués du Seigneur Jésus. Reprenons maintenant l'histoire des travaux de Paul à Corinthe. Il s'occupait donc de ses mains à faire des tentes, et nous aurions pu voir ce grand apôtre, ce serviteur éminent du Seigneur, travaillant comme un obscur ouvrier dans l'atelier d'Aquilas. Il n'en avait pas honte, au contraire. Son Seigneur n'avait-il pas vécu dans la pauvreté? N'avait-il pas été le fils du charpentier, charpentier lui-même, comme nous pouvons le lire dans les Évangiles? Matthieu 13, verset 55.
Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques et José et Simon et Jude?
Marc 6, verset 3.
Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques et de José et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous?
Mais quand le jour du sabbat arrivait, Paul, le faiseur de tentes, se rendait dans la synagogue et y parlait de l'Évangile, persuadant tant les Juifs que les Grecs. Bientôt arrivèrent ses deux fidèles compagnons de labeur, Silas et Timothée, qui jusqu'alors étaient restés en Macédoine. Paul fut tout encouragé par leur venue et les bonnes nouvelles que Timothée lui apporta de la foi et de la persévérance des chrétiens de Thessalonique au milieu des persécutions. Et il se mit à annoncer l'Évangile avec plus de zèle encore. La puissance et la vérité de la parole remplissaient son cœur. Il aurait voulu faire partager aux Juifs sa foi, et, appuyé sur les Écritures, il leur rendait témoignage que Jésus était le Christ. Mais, hélas, là comme ailleurs, ces malheureux Juifs ne voulaient pas de l'heureux message qui leur annonçait l'accomplissement en Christ de ce que les prophètes avaient prédit. Et il refusait les bénédictions célestes qu'il est venu apporter. Incrédules à la parole de Dieu et au témoignage de Paul, ils s'opposaient à lui et blasphémaient Christ. Alors l'apôtre secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang soit sur votre tête, moi je suis net. Désormais je m'en irai vers les nations. » Déclaration solennelle et terrible. En secouant ses vêtements, l'apôtre montrait qu'il n'avait plus rien de commun avec eux, et en leur disant « Que votre sang soit sur votre tête », il rejetait entièrement sur eux la responsabilité de leur ruine et de leur perdition à laquelle ils s'exposaient. Quelle chose sérieuse de ne pas recevoir la parole de Dieu ou de s'y opposer. Aucun de ceux qui périssent par l'incrédulité ne peut accuser d'autre que lui-même de son sort. Joignant l'action à la parole, Paul sortit de la synagogue et, pour montrer qu'il rompait avec la masse des Juifs incrédules, il se rendit chez un nommé Juste. Ce n'était pas un Juif, mais un prosélyte d'entre les nations, comme l'indique l'expression qui servait Dieu. La maison de Juste touchait à la synagogue, de sorte que si quelqu'un des Juifs qui s'y rendait avait le cœur touché et voulait suivre Paul, il n'avait qu'à entrer chez Juste. Il rendait ainsi témoignage ouvertement qu'il désapprouvait les autres Juifs. Mais il faut de la décision de cœur pour renoncer à la religion du monde et suivre Dieu. Le travail de l'apôtre au milieu des Juifs ne fut cependant pas vain. Le chef de synagogue même, nommé Crispus, crut au Seigneur avec toute sa maison. D'autres Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi. Les uns et les autres furent ainsi introduits dans l'assemblée chrétienne. Outre celui de Crispus, les noms de plusieurs de ces chrétiens de Corinthe nous ont été conservés, entre autres Gaius, chez qui l'assemblée, une fois formée, se réunissait, et Stéphanas, que Paul lui-même avait baptisé avec toute sa maison, comme il l'avait fait aussi de Crispus et de Gaius. Romains 16, verset 23.
Gaius, mon hôte et celui de toute l'assemblée vous salue.
1 Corinthiens, versets 14 à 16.
Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous sinon Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que j'ai baptisé pour mon nom. J'ai bien aussi baptisé la maison de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre.
L'apôtre écrivait aux Corinthiens à propos de Stéphanas. Vous connaissez la maison de Stéphanas, qu'elle est les prémices de l'Achaïe, et qu'ils se sont voués au service des saints. 1 Corinthiens 16, verset 15. Quel bel éloge! Heureux ceux qui marchent sur les traces de Stéphanas et de sa maison. Aussi Paul recommande-t-il à l'assemblée de reconnaître de tels hommes. L'apôtre ne se contentait pas de ce fruit de ses travaux, bien que son cœur en fût réjoui. Il avait dit, et c'était sa mission, « Désormais je m'en irai vers les nations », et il prêchait aux Grecs. Mais là, s'il ne rencontrait pas l'incrédulité juive, il trouvait les raisonnements des faux sages de ce monde, l'éloquence séduisante et subtile des rhéteurs, et l'horrible corruption du paganisme. On comprend qu'il sentit sa faiblesse, lui, pauvre faiseur de tentes, d'une nation méprisée, lui qui n'avait pas la parole facile et dont l'extérieur ne présentait rien d'attrayant. Que faire en présence de ces philosophes raisonneurs, de ces moqueurs élégants, de ces matérialistes plongés dans les plaisirs? Il décrit dans son épître ce qu'il ressentait devant cette tâche difficile. « J'ai été parmi vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et dans un grand tremblement, dit-il. » 1 Corinthiens 2, versets 3 et 4. Mais le Seigneur savait tout cela, il connaissait le tremblement du cœur de Paul. Aussi vint-il lui-même encourager son serviteur. Il lui dit, la nuit, dans une vision, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, parce que je suis avec toi, et personne ne mettra les mains sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. » Paul éprouva alors ce qu'il dit lui-même, « Quand je suis faible, alors je suis fort, parce que le Seigneur le fortifiait. » Soutenu par la certitude divine que le Seigneur était avec lui, et que son travail serait abondamment béni pour manifester ce qui appartenait au Seigneur dans cette grande ville, Paul se mit à l'œuvre avec zèle, et, durant un an et demi, il y enseigna la parole de Dieu. Quel était donc le sujet de sa prédication, et quels moyens employait-il? Il nous l'apprend dans les lettres que, plus tard, il écrivit à l'assemblée de Dieu qui s'était formée à Corinthe, à ceux qu'il appelle les sanctifiés dans le Christ Jésus. « Nous prêchons Christ crucifié, dit-il, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Je vous ai communiqué avant toute chose, dit-il encore, ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » 1 Corinthiens 1, verset 2, 23, 24 et 15, versets 3 et 4. En même temps, l'évangile que Paul annonçait aux Corinthiens était celui de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 4. C'est-à-dire qu'après leur avoir fait connaître un Sauveur cloué à la croix, est mort pour expier les péchés, puis ressuscité par la puissance de Dieu, en preuve que Dieu avait accepté son sacrifice, il montrait ce Jésus comme Seigneur dans la gloire où il est notre garant devant Dieu. Et c'est aussi l'évangile qui nous est annoncé, le seul évangile qui, reçu dans le cœur, sauve le pécheur. C'est, disait Paul, le seul fondement qui puisse être posé, savoir Christ. Mais quels moyens l'apôtre employait-il pour convaincre les Juifs qui traitaient la croix de scandale, qui s'offensaient qu'on leur présentât comme le Messie un homme crucifié, et pour persuader les Grecs pour qui cette même croix était une folie? Était-il riche? Non. Il travaillait de ses mains. Avait-il une haute position? Non. C'était un ouvrier faiseur de tentes. Était-il donc bien éloquent? Avait-il un beau langage qui entraînait ses auditeurs? Non. Il dit, « Je ne suis pas allé auprès de vous avec excellence de parole ou de sagesse. J'ai été parmi vous dans la faiblesse. Ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance. » L'apôtre présentait simplement la parole de Dieu, et l'Esprit Saint qui l'animait donnait à cette parole une puissance qui pénétrait et convainquait les cœurs. Ce sont là aussi des moyens que Dieu emploie maintenant pour convertir les pécheurs. Le résultat de la prédication de Paul à Corinthe fut grand. Il s'y forma une assemblée nombreuse, mais ce ne fut pas parmi les sages et les grands du monde. L'apôtre leur écrivait, « Frères, il n'y a pas, parmi vous, beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles. Non, aux yeux du monde, c'était des faibles, des petits, des méprisés, mais riches en Dieu. Ils avaient cru au Seigneur, et eux, autrefois de grands pécheurs, ils avaient été lavés de leurs péchés, sanctifiés, justifiés, au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. C'est là une richesse plus grande et un titre plus glorieux que tout ce que la terre peut donner. Christ leur avait été fait de la part de Dieu sagesse et justice et sainteté et rédemption. Et le Saint-Esprit demeurait en eux. Quel plus précieux trésor y a-t-il que cela? Paul leur écrivait aussi que la grâce de Dieu leur avait été donnée dans le Christ Jésus, et en toutes choses ils étaient enrichis en lui, en toute parole et connaissance. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Et moi-même, quand je suis allé auprès de vous, frères, je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse, en vous annonçant le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi-même, j'ai été parmi vous dans la faiblesse, et dans la crainte, et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 26.
Car considérez votre appel, frère, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles.
1 Corinthiens 6, verset 9 à 11.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Et quelques-uns de vous, vous étiez tels, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés, au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or vous êtes de lui dans le Christ Jésus, qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu et justice et sainteté et rédemption.
1 Corinthiens 1, verset 5.
En toutes choses vous avez été enrichis en lui en toute parole et toute connaissance. Tels étaient les saints de Corinthe, le travail de Paul pendant les 18 mois qu'il avait passé dans cette ville, avait porté un beau fruit. Le même évangile est annoncé maintenant et porte les mêmes fruits là où il est reçu. Puisse chacun de nous avoir Christ pour sagesse, pour justice, pour sainteté et pour rédemption.
Mais tandis que Paul annonçait l'évangile que les âmes croyaient et étaient sauvées, et que l'assemblée s'accroissait, l'ennemi veillait. Et bientôt il s'efforça, là comme ailleurs, d'entraver l'œuvre du serviteur de Dieu. Les Juifs furent encore les instruments dont il se servit. Il y avait alors, comme gouverneur romain sur la province d'Achaïe, dont Corinthe était la ville principale, un proconsul du nom de Gallion. C'était un homme lettré, d'un caractère doux, et frère du célèbre philosophe Sénèque, dont les écrits de morale existent encore. Les Juifs incrédules, toujours remplis de haine contre le nom de Jésus et contre son fidèle serviteur Paul, se saisirent de ce dernier et le traînèrent devant le tribunal du proconsul. Ils ne l'accusèrent pas cette fois en prétendant que Paul s'élevait contre l'autorité romaine, mais, comme leur religion était reconnue par les Romains, Ils dirent au proconsul, « Cet homme persuade aux hommes de servir Dieu contrairement à la loi. » Les Romains avaient des lois très sévères contre ceux qui introduisaient de nouvelles religions, et les Juifs espéraient que Paul serait condamné à cause de cela. Mais ici leur haine les servit mal. Gallion était un incrédule, plus exactement, un de ces hommes auxquels les choses de Dieu sont complètement indifférentes. Pour lui, c'était des questions de parole et de nom. Il était établi, dit-il, pour rendre la justice quand il s'agissait de crimes et de délits, mais non pour trancher des questions religieuses. Et en cela, il avait raison. Paul aurait voulu ouvrir la bouche, non pour se défendre sans doute, mais afin de profiter de l'occasion pour annoncer l'Évangile. Mais le proconsul, après avoir déclaré qu'il ne voulait pas être juge de ces choses, les renvoya tous avec mépris. Partout, les Juifs étaient détestés des païens comme un peuple qui affectait de se tenir à part des autres. Les Juifs avaient raison de ne pas se mêler aux mauvaises pratiques du paganisme, mais tout en se séparant avec dédain des païens, leur vie morale témoignait contre eux, comme Paul le leur reproche dans son épître aux Romains. Ils se vantaient de connaître Dieu et de posséder sa loi, et ils transgressaient cette loi et déshonoraient Dieu de toute manière, en sorte qu'à cause d'eux, le nom de Dieu était blasphémé parmi les nations. Romains 2, versets 17 à 24.
Or si toi, tu portes le nom de Juif et que tu te reposes entièrement sur la loi, et que tu te glorifies en Dieu, et que tu connaisses la volonté, et que tu saches discerner les choses excellentes, étant instruit par la loi, et que tu crois que tu es conducteur d'aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, instructeur des hommes dépourvus d'intelligence, maître de petits enfants, ayant la formule de la connaissance et de la vérité dans la loi. Toi donc, qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas dérober, dérobes-tu? Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre adultère, commets-tu adultère? Toi qui as en abomination les idoles, commets-tu des sacrilèges? Toi qui te glorifies en la loi, déshonores-tu Dieu par la transgression de la loi? Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations, comme il est écrit.
Avec cela, il persécutait les serviteurs de Christ. Aussi l'apôtre prononce-t-il contre eux cette parole solennelle. Ils ne plaisent pas à Dieu et sont opposés à tous les hommes. 1 Thessaloniciens 2, verset 15. Et ils estimaient être religieux. Rien n'est plus odieux à Dieu qu'une profession de religion, s'il n'y a pas la réalité dans le cœur et dans la conduite. Quand la foule des païens qui entouraient le tribunal et attendaient la sentence eut vu le mépris avec lequel Gallion avait chassé les Juifs, ils donnèrent cours à leur haine contre eux, saisirent Sosthène, le nouveau chef de la synagogue, celui qui, sans doute, avait porté la parole pour accuser Paul, et se mirent à l'accabler de coups. Et que fit Gallion sous les yeux duquel cela se passait? Rien. Que lui importait qu'un misérable juif fût battu? Il avait tort, car il devait la justice à tous. Mais Dieu, qui s'était servi de l'indifférence religieuse de Gallion pour délivrer Paul, permettait que, par son manque d'équité, la méchanceté des Juifs retomba sur leur tête. Paul put donc continuer encore assez longtemps l'œuvre bénie de l'Évangile, l'annonçant aux pécheurs, instruisant et encourageant les saints. Puis, il prit congé des frères et se rendit avec ses amis Aquilas et Priscilla à Éphèse, où nous le retrouverons. Paul revint plus tard à Corinthe, mais nous n'avons aucun détail sur cette visite. Depuis Éphèse, il écrivit deux lettres à l'assemblée de Corinthe. Elles sont parmi les plus longues que nous ayons de lui et traitent de sujets très importants. Elles complètent ce que la parole de Dieu nous dit des Corinthiens. Aussi en dirons-nous quelques mots. L'apôtre avait été informé par des frères venus de Corinthe que beaucoup de mal s'était introduit dans l'assemblée. Au lieu d'être tous bien unis, il y avait parmi eux des partis. L'un se vantait d'être de Pierre ou Céphas, l'autre de Paul, un troisième d'Apollos. Faute de vigilance, un de ceux qui faisaient partie de l'assemblée était tombé et vivait dans une immoralité révoltante, et on le tolérait. Sous prétexte de liberté, on s'associait aux fêtes païennes. Quelques-uns mettaient en doute l'apostolat de Paul. Le désordre s'était introduit dans les réunions de l'assemblée. Les femmes prétendaient y parler, la scène était profanée, les dons de langue et la connaissance étaient un sujet de vanterie. Il n'y avait plus d'édification, car chacun se hâtait de parler, même plusieurs à la fois. Et, de plus, de subtiles erreurs relatives à la résurrection avaient cours dans l'assemblée. Quel triste tableau pour une assemblée de Dieu! Que fera Paul? Son cœur était profondément affligé, mais se confiant en Dieu qui avait appelé les Corinthiens à la communion de son Fils Jésus-Christ, et qui est fidèle, il leur écrivit pour réveiller leur conscience et les ramener dans le droit chemin et à une conduite propre à glorifier le Seigneur. Et c'est ainsi que, pour tous les temps, la sagesse et la bonté de Dieu ont pourvu, dans ses épîtres, à ce qu'il faut à l'Église pour la diriger dans sa marche. Car, nous dit-il, ce qu'il écrit est aussi pour tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 2. Parcourons donc quelques-uns des enseignements que Paul donne aux Corinthiens et qui s'adressent aussi à nous. Il nous apprend d'abord ce qu'était l'assemblée des chrétiens dans un endroit. C'était l'assemblée de Dieu, tout autant que l'assemblée universelle composée de tous les croyants. C'était le temple de Dieu, car le Saint-Esprit y habitait. Quelle sainteté ne fallait-il donc pas qu'il y eût dans une telle assemblée? Aussi le méchant, l'homme qui se disait frère et vivait dans le péché, devait en être exclu. L'assemblée était le corps de Christ, lui-même étant la tête. Les croyants en étaient les membres et étaient unis à Christ par le Saint-Esprit. Chaque membre a donc sa fonction, son utilité, et tous ont à concourir au bien des autres sans rivalité, sans jalousie. La scène du Seigneur, mémorial de sa mort jusqu'à son retour, se célèbre dans l'assemblée. C'est la communion de son sang, la portion de ceux qui sont rachetés par son sang précieux. C'est la communion de son corps livré pour nous. Le seul pain partagé entre tous rappelle que ceux qui y participent sont membres du seul corps de Christ. Aux vrais croyants, et à eux seuls, appartient donc le privilège de rompre le pain, de prendre la scène. Les dons de grâce, tels que l'enseignement, la prophétie, les langues, etc., s'exerçaient dans l'assemblée, non par le moyen d'un ministère établi par les hommes ou par l'Église, mais l'Esprit opérait, distribuant comme il lui plaisait, donnant à l'un la parole de sagesse, à l'autre la parole de connaissance. Mais tout devait se faire en vue de l'utilité, pour l'édification et avec ordre, et au-dessus de tout devait régner l'amour. La marche individuelle est aussi le sujet des exhortations de l'apôtre. Il faut se séparer du mal et vivre dans la pureté, car le chrétien est membre de Christ et son corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons donc à glorifier Dieu dans notre corps. Le chrétien doit éviter les procès et souffrir plutôt qu'on lui fasse tort. Il faut fuir l'idolâtrie, ne pas participer aux festins et aux fêtes des idolâtres, car c'est participer à la table des démons. Nous n'avons plus d'idolâtres autour de nous, comme il y en avait alors. Mais un chrétien peut-il s'associer au monde, à ses fêtes et à ses plaisirs? Non, car il ne doit toucher à rien d'impur ni de souillé. En tout, le chrétien doit s'efforcer de n'être en scandale ni à l'assemblée, ni au monde. Il doit être imitateur de Christ. Enfin, quant à l'erreur de quelques-uns des Corinthiens qui prétendaient qu'il n'y avait pas de résurrection, l'apôtre établit d'abord le fait indubitable que Christ est ressuscité, ajoutant que, sans cela, nous serions encore dans nos péchés. Puis il montre que si Christ est ressuscité, il s'ensuit que les saints ressusciteront aussi. En Adam, tous meurent. En Christ, tous seront rendus vivants. Nous avons porté l'image du terrestre, d'Adam, avec des corps corruptibles qui sont poussière, Nous porterons l'image du céleste, Christ avec des corps incorruptibles. La chair et le sang, c'est-à-dire nos corps corruptibles tels qu'ils sont maintenant, ne peuvent aller dans le ciel, hériter du royaume de Dieu. Mais l'apôtre nous révèle un grand mystère caché jusqu'alors. Nous ne nous endormirons ou mourrons pas tous, dit-il, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. Voilà les précieux enseignements que Paul donna aux Corinthiens, et Dieu a voulu qu'ils nous fussent conservés, parce qu'ils s'appliquent aussi à nous. Ils nous conduisent jusqu'au glorieux avenir qui attend les chrétiens, car il n'est question ici que des croyants. Quand ces choses auront-elles lieu? Bientôt, quand le Seigneur viendra et appellera ses bien-aimés. Alors, étant tous changés, rendus propres pour le ciel, il les y introduira.